Aujourd'hui, la carte des Mendelssohn de Diane Meur.
Je vais commencer par lire le début du premier chapitre d'Adolphe de Benjamin Constant. Je venais de finir à 22 ans mes études à l'université de Göttingen. L'intention de mon père, ministre de l'électeur de, était que je parcourusse les pays les plus remarquables de l'Europe. Il voulait ensuite m'appeler auprès de lui, me faire entrer dans le département dont la direction lui était confiée et me préparer à le remplacer un jour. J'avais obtenu, par un travail assez opiniâtre, au milieu d'une vie très dissipée, des succès qui m'avaient distingué de mes compagnons d'études et qui avaient fait concevoir à mon père sur moi des espérances probablement fort exagérées. Ces espérances l'avaient rendu très indulgent pour beaucoup de fautes que j'avais commises. Il ne m'avait jamais laissé souffrir les suites de ces fautes. Il avait toujours accordé, quelquefois prévenu, mes demandes à cet égard. C'était le début d'Adolphe de Benjamin Constant. Parce que c'est un roman que je trouve assez mystérieux d'un point de vue psychologique. À la fin, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé entre ces deux personnages. Et donc, chaque fois que j'ai fini de le lire, je reprends le début. Voilà, c'est donc la simple raison qui m'a fait choisir ce livre. Et je pense qu'on peut en dire autant de... Enfin voilà, je crois que c'est ça un bon début. C'est celui auquel on a envie de revenir après avoir fini le livre. Mais d'un autre côté, il y a aussi de très bons livres qui ne vous prennent pas... dès les premières lignes, c'est... Enfin, je sais pas, il y a différentes économies de livres. Il y a ceux dans lesquels on entre un peu difficilement et puis qui nous absorbent comme ça en un ou deux chapitres. D'autres, comme celui-ci, comme Adolphe ou, je sais pas, Le Grand Mône, tout se joue vraiment dans les premiers mots. Voilà. Il arriva chez nous un matin de... Oui, voilà, Le Grand Mône, ça me... Et je trouve que c'est la plus belle phrase du livre, en fait. Je trouve ça absolument sublime. Commencer un roman comme ça, c'est extraordinaire. Ça a quelque chose d'ouvert que je trouve assez beau. Quelque chose de flottant, quoi. Rien n'est joué et tout continuera à être ouvert jusqu'à la fin.
Eh bien, on va entendre comment vous, Diane Meur, vous avez choisi de commencer votre nouveau roman qui paraît chez Sabine Vespizer, éditeur, à l'occasion de la rentrée littéraire.
Au commencement, il y avait un homme... Eh bien, non. Au commencement, il n'y a jamais un homme, ni une femme d'ailleurs, ni même un homme et une femme, pas plus qu'il n'y eut un premier jour et une première nuit. Ce sont des multitudes d'ancêtres dont le nom s'est perdu, de plus en plus nombreux et incertains à mesure qu'on remonte, si bien qu'on en arrive à ce constat déroutant pour les grands gosses que nous sommes. Dans ce domaine, il n'y a pas de commencement. Seules les vies ont un commencement, et encore. La vie dans l'absolu n'a ni début ni fin. Seuls les maillons de sa chaîne apparaissent à notre regard, se déploient sous nos yeux, se soustraient à notre vue, sans que la continuité de la chaîne soit vraiment affectée par ces jeux de cache-cache. Mais nous parlons de Moses, de ce Moses qu'on ne peut même pas encore appeler Mendelssohn, nous verrons bientôt pourquoi, et j'admets que sa vie à lui a bien commencé quelque part, à Dessau, petite capitale du petit duché d'Anhalt. Quand ? Le 6 septembre 1729, lit-on le plus souvent. Mais on lit parfois aussi le 17 août 1728, ce qui m'a d'abord fait soupçonner qu'il était venu au monde avant le mariage de ses parents. Comme mon cher Heinrich Heine, qu'on affirma longtemps né en 1799 et non en 1797, parce qu'être enfant de l'amour était alors une tare à dissimuler soigneusement. Soupçons infondés. Rien dans le couple pieux que formaient ses parents ne laisse penser à des débordements passionnels et à vrai dire, la discordance de dates ne tient qu'à un seul chiffre. Je suis né à Dessau en 1729, le 12 Elul 5489 du calendrier hébraïque, écrit quelque part le philosophe allemand. Autrement dit, le 6 septembre 1729. Mais sa première pierre tombale, pourquoi la première, on le verra plus loin, mentionnait le 12 Elul 5488, c'est-à-dire le 17 août 1728. Certains ont donc avancé l'hypothèse qu'il se serait trompé d'un an dans sa notice autobiographique, une hypothèse bien improbable si l'on veut mon avis. Qu'il se soit embrouillé dans les correspondances entre calendrier chrétien et calendrier hébraïque passe encore. Mais que dans la même phrase, il se soit trompé dans les deux calendriers, on a du mal à le croire. Raisonnablement, la plupart des biographies retiennent donc la date de 1729, laissant conclure que l'erreur venait du graveur de sa pierre tombale. S'agissant d'un mort aussi célèbre, une telle erreur n'est pas moins surprenante. Cependant, il faut bien que l'un ou l'autre se soit trompé, n'est-ce pas ? À moins qu'il n'y ait pas d'erreur ici, mais une innocente tromperie, selon une troisième hypothèse que je mentionnerai pour sa simple beauté. Moses aurait sciemment modifié sa date de naissance pour la faire coïncider avec celle de Gotthold Ephraim Lessing, l'ami, l'alter ego, né en janvier 1729. Seules les histoires ont un commencement, et encore. Elles n'en ont justement qu'un, choisi parmi une infinité d'autres tout aussi pertinents. L'histoire de Moses commence-t-elle seulement lors de sa naissance à Dessau, un 12 Elul 1728 ou 1729 ? Ne commence-t-elle pas déjà avec ses géniteurs, leurs parcours respectifs ? Dans ce cas, allons-y. Mendel, père de Moses, s'occupait d'écriture dans la modeste communauté juive de Dessau. On l'appelait donc Mendel Dessau. Parfois aussi Mendel Heimann, c'est-à-dire Haïm, peut-être parce que son propre père s'appelait Haïm. C'est même plausible. Haïm sera le nom donné par Moses à son premier fils, né et mort en 1766. On n'en sait guère sur Mendel Heimann Dessau, sinon que c'était un homme pauvre venu d'ailleurs, et que les jours d'hiver à 4 heures du matin, il juchait sur son dos le petit garçon chétif pour le mener à l'école, emmitouflé dans un manteau. J'ai sous les yeux une image de leur maison familiale. C'est une bicoque qui ne m'évoque que tristesse, humidité, manque de lumière, et où se serraient, outre le chétif Moses, au moins un frère, Saün, et une sœur, Jente. L'auteur du livre dans lequel j'ai trouvé cette image signale de plus qu'à l'époque, il existait une maison mitoyenne et que la cour n'était pas encore pavée. Donc, moins de lumière encore, poules picorant la boue, jour d'hiver où l'on se lève à 4 heures du matin parce qu'il fera déjà nuit à 4 heures d'après-midi. Rapproché de ces derniers éléments, ce conseil de la mère de Moses paraît en revanche trop beau pour être admis sans vérification, des vérifications dont je me suis abstenue, autant l'avouer tout de suite. Rachel Sarah Neval, en effet, n'aurait pas eu moins de deux ancêtres illustres, Moses Isserles de Cracovie, grand talmudiste du XVIe siècle, et Saül Katzenellenbogen, dont la légende m'a été racontée un jour au canon des Gobelins par un ami nommé Haïm, dont une grand-mère s'appelait aussi Val. Ce Saül Katzenellenbogen, originaire de Padoue, serait devenu le protégé du prince lituanien Radzivill et en aurait si bien gagné l'estime qu'en 1587, le trône de Pologne restant vacant, Radzivill l'aurait fait élire roi à titre temporaire, d'où son surnom de Saül Val, du terme germanique signifiant « élection ». Peut-être. Mais peut-être aussi que Val appartient simplement à cette famille de noms qui, comme Welek, Bloch, la Gaule, les Galles, les Welches, Valaques et Wallons, désignent approximativement et tout relativement gens et pays de l'Ouest et ou du Sud. Un nom qu'on verrait bien donner en Pologne à un homme venu de Padoue. En cet automne 2012, où j'explorais la descendance de Moses et la voyais s'étendre peu à peu au globe tout entier, aux milieux et métiers les plus divers, j'avais aimé l'idée que mon vieil ami sculpteur, avec qui j'étais en train de boire du thé au canon des Gobelins, puisse être, sinon un de ses innombrables descendants, du moins un lointain cousin du côté maternel. Haïm, n'est-il pas né à Leipzig, tout près de Dessau ? Mais cette histoire de roi de Pologne, dont descendrait comme lui Rachel Saraval, me laisse en fait sceptique. Eu égard à la bicoque grise, au lever à 4 heures, aux poules grattant la terre battue de la cour, elle m'apparaît plutôt comme un de ces mythes dont se berce la misère pour embellir le quotidien. Vérité ou légende, voilà que l'histoire de Moses, au lieu de commencer au premier tiers du XVIIIe siècle, pourrait remonter à la fin, voire au milieu du XVIe. Et allons plus loin. Ce prénom de Moses, d'où lui venait-il ? D'un aïeul, sans doute, qui le tenait d'un autre aïeul, qui le tenait peut-être de Moses Isserles de Cracovie. Lequel, sautons quelques étapes, devait bien le tenir de Moïse en personne, qui, lui, l'avait reçu d'une fille de Pharaon trop curieuse pour voir flotter un panier sur le Nil sans regarder dedans. Il s'appellera Moïse parce que je l'ai retiré des eaux. Retiré des eaux, telle serait la signification du prénom hébraïque Moses. À moins de suivre Sigmund Freud, selon qui Moses ou Moses serait un nom tout ce qu'il y a de plus égyptien et signifiant « enfant », comme dans Toutmosis, fils de Thoth, ou Ramoses, Ramsès, fils de Ra. Freud, selon qui Moïse lui-même pourrait bien être tout ce qu'il y a de plus égyptien, et cette affaire de bébé trouvé dans un panier dérivant sur le Nil, l'explication donnée en catastrophe à ses parents par une jeune fille qui clairement avait cessé de l'être. Des commencements à cette histoire, on pourrait encore en trouver des dizaines. L'histoire de Moses Mendelssohn commence très exactement en mai 1761. Lorsqu'il se met à signer ses lettres Moses Mendelssohn, un nom qu'il s'est choisi et transmettra à ses enfants, ouvrant la voie à l'histoire que j'essaie d'écrire, celle des Mendelssohn. Mais sous un angle plus intellectuel, son histoire commence peut-être avec celle de Baruch Spinoza, le philosophe excommunié dont il admirait tant l'œuvre. Si ses coreligionnaires en détresse le voient comme un second Moïse, lui craint surtout de devenir un second Spinoza. Et dans la chronologie qui me sert ici de base, élaborée grâce à de patientes compilations et courant jusqu'au début du XXIe siècle, j'ai donc fait figurer, bien avant sa naissance, 1656, 27 juillet, la communauté juive d'Amsterdam excommunie Spinoza. Date qui est loin d'être la première. L'histoire des Mendelssohn ayant fini par être celle d'une illustre famille protestante de Prusse, j'ai cru bon d'ajouter, 1517, veille de la Toussaint, Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église du château, à Wittenberg. Et s'il s'agissait là de faits avérés et datables, je n'aurais pas hésité à mettre au tout début Moïse, selon les sources, un enfant hébreu trouvé ou un bâtard égyptien de sang royal, traverse à pied sec la mer Rouge avec le peuple dont il a pris la tête. Seules les idées ont un commencement. Et encore, quand des lecteurs me demandent « D'où vous est venue telle ou telle idée ?», ils s'attendent sans doute à une réponse simple et claire, mais bien malin qui peut dire d'où nous viennent les idées. Alors je me borne à raconter dans quelles circonstances l'idée m'est venue. Voilà, je regardais par la fenêtre du RERB quand soudain je me suis dit que ce roman galicien devait être raconté par une maison. Le plus souvent, mes lecteurs s'en satisfont, et c'est donc ce que je ferai ici dans la mesure du possible. Je savais que Félix Mendelssohn, le compositeur, 1809-1847, était le petit-fils de Moses Mendelssohn, le philosophe, 1729-1786. Et longtemps, je n'en ai pas pensé grand-chose, car le compositeur n'était pas vraiment de mes préférés. Quant au philosophe, quoiqu'il ait servi de modèle à Nathan le Sage dans la pièce de Lessing, je n'avais guère lu. Un jour, pourtant, j'ai pensé à l'homme qui avait été le père du premier et le fils du second. Quel merveilleux sujet de roman, m'étais-je dit alors. Et quelle intéressante situation historique. Être le fils d'un philosophe des Lumières mort 3 ans avant la Révolution française, être le père d'un compositeur romantique mort l'année précédente, le Printemps des Peuples, et de cette vie placée sous le signe de l'entre-deux, entre deux génies, entre deux dates charnières, d'avoir rien fait ou rien de marquant. Un roman sur le vide et sur les filiations. Mais l'idée dormait. D'autres projets prenaient le pas sur elle. Jusqu'au printemps 2010, où sur le point de m'installer temporairement à Berlin, je repensais à ma triade. Voilà, c'est un livre qui d'abord n'a pas de commencement et on verra plus tard n'a pas de fin non plus. Comme en fait, c'est une tranche de l'humanité. Ça ne s'arrête nulle part, quoi. On ne sait pas où ça a commencé, ça ne finira jamais. Je trouve ça très réjouissant, finalement. Pendant que j'écrivais le livre, c'était très perturbant, parce qu'un sujet de roman qui n'a ni début ni fin, c'est quand même un peu inquiétant, mais après l'avoir terminé, je suis contente. Bon, il y avait quand même aussi une petite référence biblique, mais donc... je ne pense pas que tes idées nous viennent de Dieu. Je pense que des idées viennent d'une mémoire mal rangée. Normalement, une mémoire claire et ordonnée met les choses au bon endroit. Chez quelqu'un d'un tout petit peu fouillis comme moi, ça se met dans le mauvais tiroir. Et du coup, des choses qui ne devraient pas être ensemble se retrouvent dans le même panier. Et hop, une idée en est, je pense que c'est... Mais vu que l'explication est encore plus tortueuse que la première, je pense que je vais la garder pour moi. On va donc écouter la musique du CD-ROM généalogique dont je me servais pour fabriquer la carte des Mendelssohn. Puis il y a aussi un objet qui s'appelle la carte des Mendelssohn. la musique, oui, joue un rôle pour moi ancien, quoi. C'est pas... Non, je pense pas que ce livre vienne de la musique, plutôt d'une envie d'explorer le monde, tout simplement. Non, je pense que le schéma de base, c'est un récit de voyage, quoi. C'est un tour du monde dans un voilier, voilà, à l'époque 1800. Mais... Enfin, c'est ça, la structure du livre. C'est pas tellement une symphonie, c'est une navigation autour de côtes mal connues et déchiquetées, voilà. Et cet objet généalogique était tellement long à fabriquer et tellement complexe qu'en fait, j'avoue que j'ai toujours un petit peu un frisson en réentendant cette musique. Ça me rappelle des semaines un peu intenses, quoi, un peu cauchemardesques.
C'était Diane Meur qui présentait son roman La carte des Mendelssohn, à paraître aux éditions Sabine Vespizer. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Manuel Couturier. Thank you.